Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez toujours voulu le savoir mais sans oser le demander. D'ici une heure pourtant, vous connaîtrez mieux l'histoire de l'objet qui comporte tous les autres. J'ai nommé le livre.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et c'est une émission proposée aujourd'hui par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Aloïse Guérin, Jean-Christophe Francis et Grégory Wallon. Faire l'histoire du livre, ce n'est pas simplement raconter l'apparition et l'évolution d'un objet, c'est aussi suivre une série d'innovations technologiques, commerciales et formelles qui ont changé la nature des sociétés humaines. Le livre est en effet, depuis ses origines, un enjeu de bataille dans le domaine des idées ou des croyances, dans le même temps qu'il permet la diffusion des sciences et des techniques nouvelles et qu'il est enfin, on l'oublie parfois, une source de rêverie et un remède à la mélancolie.
Le terme de livre ne peut être défini. Objet sans essence, petit bâtiment qui n'est pas universel. La réunion de feuilles servant de support à un texte imprimé, cousu ensemble et placé sous une couverture commune, ne le définit pas. Ce que les Grecs et les Romains déroulaient sous leurs yeux, les tablettes d'argile que consignait Sumer, les bandes de papyrus encollées de l'Égypte, les carreaux de soie de la Chine, ce que les médiévaux enchaînaient à des pupitres et qu'ils étaient impuissants à porter sur leurs genoux ou à tenir entre les mains, les microfilms qu'entassent les universités américaines, des feuilles de palmiers séchées et frottées d'huile, des lamelles de bambou, des briques, un bout de papier, une pierre usée, un petit carré de peau, une plaque d'ivoire, un socle de bronze, une pelure d'écorce, des tessons. Rien de ce que l'usage de ces matières requiert ne s'éloigne sans doute à proprement parler de la lecture.
Et oui, le livre qui n'est pas seulement un rectangle de feuilles empilées, comme l'écrit Pascal Quignard dans ses petits traités, le livre dont on va parler aujourd'hui avec deux invités. D'abord, Filippo Ronconi, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Aux racines du livre, métamorphose d'un objet de l'Antiquité au Moyen-Âge » publié en 2022 aux éditions des hautes études en sciences sociales. Mais si on suit bien Pascal Quignard, on devrait plutôt aller à la racine des livres, davantage que du livre.
Bien sûr, bien entendu, ce qu'on vient d'entendre est très intéressant et très stimulant parce que saisit un élément de fond, c'est-à-dire que par-delà le format, par-delà la matière et par-delà la technique de production, d'inscription du texte, un livre est tout d'abord un objet social qui vit dans la société, qui vit dans les mains des individus, qui s'est transformé au fil du temps, bien entendu, à sa propre histoire, bien évidemment, mais justement, c'est quelque chose qui va au-delà, voilà. Précisément, un objet social, et moi j'ose dire aussi, d'un certain point de vue, un objet social total, parce que justement, à la production du livre collaborent des individus très différents entre eux, par origine sociale, capacité, compétences. Il y a, disons, les artisans qui produisent les supports les plus différents. Et puis il y a évidemment les copistes qui inscrivent un texte qui en soi n'existe que dans l'esprit de l'auteur. Puis bien évidemment, il y a les lecteurs. Et il n'y a pas de livre sans lecteur, il n'y a pas de livre sans auteur, il n'y a pas de livre sans copiste, il n'y a pas de livre sans artisan qui en produit le support. Donc c'est vraiment un objet qui, si l'on veut, transperce la société, les différentes strates de la société.
Et un objet absolument fascinant, justement, par toutes ses dimensions. Également avec nous, Christine Bénévent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes titulaire de la chaire d'histoire du livre moderne à l'École nationale des chartes, l'autrice de Miroir d'encre, sous-titré Histoire du livre, désir de lecture, que vous venez de publier. C'est également aux éditions de l'École des hautes études. Et le principe de votre démarche est au fond peut-être de lier un peu l'histoire du livre avec aussi le sensible, la sensibilité du lecteur, ce que cet objet très fascinant, très étrange, très bizarre provoque sur le lecteur.
Oui, effectivement, l'idée qui a présidé à la rédaction de ce livre était de mettre en lien une sensibilité de lectrice à l'origine.
La vôtre.
Voilà. Une compétence progressivement acquise dans le domaine littéraire et l'apprentissage progressif de la réalité matérielle du livre, envisagé aussi dans ses enjeux politiques, sociaux, symboliques.
Donc on peut se demander d'où vient le livre, mais est-ce qu'on peut se demander d'où vient la lecture? Parce que c'est un petit peu votre projet, mais c'est un projet difficile, non?
Oui, alors je ne prétendrai pas répondre à une question aussi complexe, mais voilà, ce qui apparaît toujours dans les définitions qui ont été données du livre, c'est que il ne devient véritablement un livre, véritablement complet, que lorsqu'il est pris en main et lu par un lecteur.
C'est ça que ça veut dire lire en fait. Ça veut dire interpréter un texte.
Oui, je pense que les critiques littéraires, l'histoire littéraire montre bien que chaque époque va investir dans le livre des attentes et des interprétations différentes. Et donc un livre même écrit dans l'Antiquité va connaître toutes sortes d'avatars, d'incarnations successives et voilà de réceptions, d'interprétations qui vont lui permettre de vivre jusqu'à nous et de poursuivre, nous l'espérons, sa vie au-delà de la nôtre.
Et justement, avec vous, Christine Bénévent, on se demandera, au fur et à mesure des siècles que nous allons parcourir ensemble, ce que lire veut dire. Je prends un exemple comme ça au hasard, c'est Hugues de Saint-Victor qui disait de la lecture qu'elle était une contemplation. Ça, c'est le XIIIe siècle. Mais ça reste une contemplation encore aujourd'hui.
Alors, il y a évidemment cette dimension contemplative, mais dont Philippot parlera certainement mieux que moi. Il y a cet aspect, effectivement, contemplatif, mais je pense qu'il y a aussi ce que Roger Chartier appelait les appropriations. Chaque lecteur va investir dans le livre des sens et des attentes qui sont liées à sa condition sociale, à sa position de lecteur, à son imaginaire, à l'époque dans laquelle il vit.
Philippe Ronconi, qu'est-ce que ça signifie lire au tout début de l'histoire du livre? Est-ce qu'on peut essayer de se rendre compte de ce que c'est que cette activité de lecture alors qu'il n'y a quasiment pas de livre encore?
Bien sûr, tout d'abord, il faut bien délimiter un peu les cadres. On parle du livre dans le monde occidental, parce qu'évidemment, il y a une histoire du livre dans d'autres parties du monde.
Et en Asie notamment, qui est peut-être même plus ancienne.
Précisément. Mais donc, en ce qui concerne ce monde occidental dont on parle, donc, je voudrais reprendre quelque chose que vient d'être dit au sujet de l'idée de la lecture comme appropriation et comme acte de reconnaître. Alors, il faut considérer qu'en grec, lire se dit anagnoskin, et anagnoskin signifie précisément reconnaître. C'est-à-dire, la première idée, c'était de reconnaître la lettre de l'alphabet, reconnaître les textes, et donc à travers un processus de lecture qu'il faut considérer était bien plus complexe qu'aujourd'hui, parce que justement, il y avait tout un tas de problèmes, de soucis, notamment il n'y avait pas d'espace entre les mots, donc voilà, la lecture était vraiment une activité complexe. Et quand même, donc lire signifiait tout d'abord avoir dans ses mains un objet très différent des objets que nous avons aujourd'hui dans notre monde du point de vue de format. Normalement, alors en Grèce, c'était des polyptiques en bois, éventuellement des tablettes cirées et surtout des rouleaux en papyrus. Et donc il y avait aussi une dynamique de lecture physique, un rapport physique avec l'objet qui était radicalement différent. Et puis, naturellement, il y avait aussi un autre aspect très intéressant, bien avant la dimension, si l'on veut, spirituelle de la lecture du Moyen-Âge. Il y avait aussi une lecture qui était un moment, au fond, de sociabilité, compte tenu de l'extrême diffusion de la lecture sonore dans l'Antiquité. C'est-à-dire le fait de, si l'on veut rendre silencieuse et intérieure la lecture, quelque chose qui existait, pouvait exister, mais la norme sociale semble avoir été celle, justement, de la lecture sonore.
La lecture à voix haute.
À voix haute.
Mais qui est donc une lecture pour les autres, ou une lecture aussi pour soi, quoique à voix haute?
Voilà, il y a un passage très intéressant d'Aristote, où il parle de la façon par laquelle on lit à l'intérieur de son propre lit, donc évidemment de façon individuelle, et la façon par laquelle il décrit la lecture laisse penser que c'était quand même une lecture sonore. Donc probablement, très souvent, la lecture était sonore même au niveau individuel. Mais bien évidemment, c'est surtout une lecture sonore qui devient un facteur social. Donc la lecture au cours des moments de sociabilité, voilà, les banquets, etc. Et donc on connaît très bien toute la littérature grecque qui s'est développée autour du banquet, etc., qui est un moment vraiment central de la vie, par exemple, athénienne. Et donc voilà, cette lecture qui est une lecture partagée, et j'ai voulu le souligner dans mon ouvrage, c'est-à-dire le livre qui est aujourd'hui très souvent un élément, disons, de la vie individuelle, solitaire, la lecture intériorisée, silencieuse, dans un coin, était au contraire quelque chose de très différent, quelque chose de partagé.
Alors ça change beaucoup de choses, Filippo Ronconi, de passer de cette lecture orale à la lecture silencieuse, mais de manière générale, de passer d'une civilisation de l'oralité à une civilisation de l'écrit. Je vous propose d'écouter un extrait du Phèdre de Platon, dans lequel il est question de cela, et puis vous allez ensuite le commenter pour nous.
Quand on en fut à l'écriture, « Voici, ô roi, dit Euthe, le savoir qui fournira aux Égyptiens plus de savoir, plus de science et plus de mémoire. De la science et de la mémoire, le remède a été trouvé. » Mais Thamous répliqua, « Ô Euthe, le plus grand maître est-ce art. Autre est celui qui peut engendrer un art, autre celui qui peut juger quel est le lot de dommages et d'utilité pour ceux qui doivent s'en servir. » Et voilà maintenant que toi, qui es le père de l'écriture, tu lui attribues par complaisance un pouvoir qui est le contraire de celui qu'elle possède. En effet, cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire, mettant en effet leur confiance dans l'écrit. C'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu'ils feront acte de remémoration. »
Sans oser le demander sur France Culture. Un extrait donc de ce Platon, le mythe de Euthe, lu ici par Hélène Losser. Produire l'oubli, c'est ce que pourrait finalement amener, c'est à ça que pourrait amener la généralisation des livres. C'est intéressant de voir comme on peut avoir peur de cette technique nouvelle, et puis aussi le passage d'un monde qui est vu intérieurement, qu'on connaît soi-même, qu'on a intériorisé soi-même, que nous décrit Platon, à un monde qui tout d'un coup nous devient extérieur. Alors on connaît plus de choses, mais ces choses-là, nous ne les avons pas ingérées de la même façon, Filippo Ronconi.
Oui, bien sûr, bien entendu, ce passage de Platon est un passage très lu, très complexe aussi à interpréter, parce que quand même Platon est quelqu'un qui a bien écrit des textes, donc lui-même a bien utilisé l'écriture, mais effectivement en mettant par écrit des dialogues. Donc il y a tout un jeu effectivement à l'intérieur de la théorisation platonicienne du rapport à l'écrit. Mais bien entendu, ce que vous dites, on pourrait faire référence à des travaux très importants de Goudy, etc., d'autres individus qui soulignent l'importance centrale pour la transformation et l'évolution de la société du fait d'écrire, justement, la capacité de transformer la mémoire non pas dans quelque chose qui se transmet tout simplement d'une génération à l'autre dans une chaîne, disons, faible, fragile, mais de pouvoir la transmettre à travers les générations, à travers l'écrit, justement. Mais bien entendu, la question de la mnémotechnique et des capacités de mémoire est une question très complexe. Hein. Très souvent, on a la sensation que les anciens avaient une capacité de mémoire énormément supérieure à celle que nous avons aujourd'hui, justement parce qu'ils avaient moins de support, mais probablement aussi parce qu'ils l'exerçaient.
Christine Benevent.
Oui, effectivement. Enfin, je pense que c'est cette question de l'objectivation de la mémoire finalement qui va s'incarner dans un objet qui est le livre court tout au long de l'histoire et à chaque alors entre guillemets révolution du livre hein, parce que le terme de révolution peut être amplement discuté cette question a ressurgi, c'est-à-dire qu'avec l'invention de l'imprimerie là aussi on a des interrogations qui remontent sur l'impact que va avoir cette nouvelle invention par exemple dans l'enseignement universitaire qui est qui est entièrement fondée sur, enfin, très profondément fondée sur la mémoire au Moyen-Âge, et puis la mise à disposition massive de livres que, voilà, que chaque étudiant pourra avoir, transforme non seulement le rapport à la mémoire, mais aussi le rapport au savoir. Et puis aujourd'hui, voilà, on a tendance à estimer que nos jeunes élevés aux écrans et à Internet, voilà, ne vont pas forcément exercer leur mémoire comme nous avons pu le faire ou comme nos prédécesseurs ont pu le faire.
Mais c'est dire à quel point le livre est un totem dès le début. Et on sent bien tout l'enjeu sociétal qu'il y a derrière les différentes techniques qui se succèdent autour de cet enjeu-là. Et évidemment, chacun cherche à tirer vers soi le livre pour en faire un objet qui lui convienne le mieux. Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement de l'importance au fond sociétale de ces débats sur le livre, qui soient des débats concernant la foi, des débats concernant les sciences. Chacun a cherché à tirer le livre, l'objet livre à lui-même. Christine Bénévent.
Alors, je ne sais pas si je vais être en mesure de répondre à cette question, peut-être en passant par le détour du symbolique, c'est-à-dire de la façon dont le livre a été l'attribut d'un certain nombre de personnages. Philippot l'évoque aussi, hein, dans son ouvrage, comment il devient l'attribut du savant. On a aussi toute la phase où le pouvoir s'empare du livre, hein, pour en faire un attribut du pouvoir, et cette force symbolique du livre, c'est vrai qu'on la mesure dans toutes les dimensions, en particulier dans ce qu'on appelle les religions du livre. Voilà, donc j'ai un peu perdu le fil de votre question initiale.
C'était déjà une façon d'y répondre. Philippe Ronconi.
Oui, bien entendu, c'est très intéressant de remarquer comment il y a des moments dans l'histoire où le livre semble être vraiment rentrer dans l'imaginaire. Alors, par exemple, il y a un passage de Tite Libe qui dit comment au début de l'histoire républicaine, si je ne me trompe pas, on trouva des très anciens rouleaux renfermés dans une caisse ayant appartenu, selon la tradition, à un roi, Numa Pompilius, je crois, etc. Bon. Et il dit, bon, il laisse entendre, Tite Libe, que probablement il s'agissait de faux. Mais bon, donc là, il y a évidemment cette idée de produire des faux qui font référence à une histoire royale qui essaie de, bon, ennoblir, disons, une certaine situation sociale à travers la référence au livre, le livre ancien. Mmh. Donc le livre devient progressivement, hein, surtout dans des moments clés, hein, où le livre se diffuse dans la société, il devient d'une certaine manière aussi un symbole, voilà, comme vous le disiez. Un autre moment clé, bon, un moment vraiment important et intéressant, c'est celui de la diffusion du rouleau dans la société romaine. C'est quelque chose, bon, à laquelle on a beaucoup réfléchi, et effectivement, on peut constater très bien que le livre devient le livre rouleau, donc le livre à la grecque, hein, qui est importé à Rome au moment où Rome se diffuse, disons, devient puissante dans l'Orient de la Méditerranée. Et le livre devient un status symbole, c'est-à-dire vraiment les aristocrates veulent posséder des bibliothèques avec des rouleaux. Souvent, ils ne peuvent pas les lire, parce que ces livres sont écrits en grec, par exemple, ils ne le connaissent pas. Mais c'est important d'en posséder, c'est une question de goût social, bon, à la Bourdieu, qui, d'une quelque manière, ennoblit l'individu et légitime sa primauté sociale, voilà. Et donc le livre comme effectivement objet de ce point de vue presque transcendant. Oui. Voilà.
Alors si on fait de façon grossière un petit peu une histoire matérielle du livre, on pourrait commencer en Méditerranée orientale, la Grèce archaïque et classique. Ensuite c'est l'Égypte hellénistique, la Méditerranée centrale, ensuite l'Empire romain, et après l'Antiquité tardive, le haut Moyen-Âge, et là on passe d'un objet à un autre. Quelle est la succession de ces objets, Philippot Ronconi? Est-ce que c'est d'abord le papyrus, ou le tablette papyrus, ensuite codex? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, un élément central qu'il faut souligner, hein, que j'ai essayé de souligner, c'est justement qu'au fond, l'histoire du livre, c'est une histoire longue et lente, où les différentes différentes matières et les différents formats, en fait, ne s'excluent pas totalement. C'est-à-dire, ils se superposent, bien évidemment, bien entendu, mais les vieilles continuent d'exister. Voilà. Et en tout cas, si l'on devait imaginer un peu une succession, après ça dépend aussi des régions, hein. Par exemple en Égypte, le papyrus a été utilisé bien sûr depuis hyper très très longtemps, alors que par exemple en Italie ou en Grèce, le papyrus ne pousse pas. Et donc au début,
oui, et puis il y a une question de climat aussi, parce que le papyrus, plus vous êtes au sud, plus c'est sec et mieux ça se conserve, alors que dans les
bien sûr, ça c'est pour la conservation, mais aussi pour la production. Alors le papyrus pousse essentiellement dans des climats qui sont essentiellement les climats, c'est essentiellement les climats de l'Égypte, d'une certaine région de l'Égypte et d'autres régions aussi. Mais donc ça pousse pas, sauf que par exemple en Sicile, dans certaines parties de la Sicile orientale, généralement ça pousse pas en Europe. Et donc ça signifie que les livres écrits à Athènes à l'époque de Platon ou les livres écrits à Rome à l'époque de Cicéron, bon, en fait, ils étaient des livres dont les supports étaient importés d'Égypte. Ça, il faut bien le considérer. Sinon, il y avait bien sûr des formes de livres, il y avait eu des formes de livres autochtones, plutôt dans des matières qui étaient à la disposition de ces régions. Donc, essentiellement, les lins, à ce qu'on peut voir, et le bois.
Mmh. Voilà. Donc les premières tablettes sont en bois.
Voilà, précisément. Et par la suite, justement, le rouleau en papyrus justement se diffuse dans toute la Méditerranée à l'époque classique puis hellénistique, et puis naturellement les codex se diffusent plus tard à l'époque de l'Empire romain. Voilà.
Christine Ménévent, vous intervenez quand vous voulez.
Oui, pour prolonger, c'est vrai qu'avec l'invention de l'imprimerie, la forme codex perdure, hein, évidemment. Mais ce qui est peut-être intéressant à souligner, c'est la façon dont les imprimeurs vont récupérer un certain nombre de pratiques qui étaient propres au lecteur dans le manuscrit, puisque le codex, contrairement au volumen, permet, par exemple, de glisser un marque-page, d'avoir des repères de lecture très différents. La question de la foliotation et de la pagination, par exemple, me semble passionnante dans la mesure où ce sont d'abord les lecteurs qui les ont intégrés, non pas pour savoir à quelle page ils étaient de leur lecture, mais pour pouvoir constituer les instruments que sont les tables des matières, les sommaires, les index, voilà, des modes d'entrée ponctuels dans le livre.
Et ça arrive dès le début du codex ou est-ce qu'il faut un petit peu de temps quand même?
Alors, je pense qu'il faut un petit peu de temps. Philippot pourra peut-être davantage.
C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Effectivement, on constate que dans les codices de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, ce ne sont pas les pages qui sont numérotées, mais ce sont les cahiers. Et cette numérotation des cahiers, évidemment, ce n'est pas lié à quelques raisons de consultation, mais plutôt pour être sûr qu'on puisse les conserver dans le bon ordre, que le livre soit relié ou pas. Et c'est très intéressant aussi la question des pinacs, des index. C'est très important cela, parce que justement, dans les livres du Moyen-Âge et de l'Antiquité tardive, on les a. Mais on n'a pas de référence, c'est-à-dire tout simplement il y a la liste des ouvrages qui sont contenus dans les codex, mais il n'y a pas de nombre de pages, évidemment il n'y a pas tout cela. Et justement, ce sont souvent, j'imagine toujours, les lecteurs postérieurs, et on voit que les mains qui ont ajouté la numérotation des pages, en fait, ce sont toujours des mains très postérieures, mais généralement de l'époque moderne. Donc j'imagine que là, il y a eu une interaction effective entre l'imprimerie et les exigences aussi des milieux de production des livres imprimés, et voilà une manière de se rapporter à l'objet livre.
Donc le codex, Christine Ménévent, permet l'appropriation, au fond, par le lecteur du livre, bien davantage que le papyrus, parce que, précisément, on peut aller directement où on veut aller dans le livre, c'est ça ?
Oui, en tout cas, il me semble que le codex permet d'échapper à la lecture linéaire et de pouvoir se livrer à des lectures ponctuelles où on va aller chercher directement le point qui nous intéresse, sans forcément devoir lire l'ensemble du texte.
Mais après tout, on n'a pas besoin de tout lire.
Un livre n'est pas fait pour être lu intégralement. Et ça, il faudrait l'admettre. Je veux dire, tout le monde devrait l'admettre. On devrait liquider une fois pour toutes le surmoi de lecture et admettre qu'un livre, ça se lit, il y a des passages qui se sautent, etc. Il faudrait absolument arriver à concevoir, je dirais, mais vraiment à assumer soi-même, enfin que la société assume que les livres ne sont pas faits pour être lus en entier, car c'est en fait ce qui se passe. Ils pourraient être lus collectivement, c'est un peu comme le livre Mallarméen, oui. N'est-ce pas, finalement ? C'est-à-dire que le livre Mallarméen n'existait dans sa totalité que projeté devant une salle d'auditeurs, mais chaque partie ne touchait que l'un ou l'autre. Ça implique aussi qu'on se donne le droit, par exemple, de porter un jugement sur un livre en ne l'ayant pas lu en entier, en ayant, disons, prélevé dans ce livre des sortes de morceaux, de prises d'écriture. Et au fond, on sait très bien si le livre, à ce moment-là, vous concerne.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est comme ça que vous lisez aussi Christine Bénévent, tel que Barthes le recommandait au micro de Jean-Marie Benoît en 1977, c'est-à-dire, ben, en fond, vous lisez comme vous l'entendez.
Alors non, je suis une lectrice très scrupuleuse, la découverte des droits imprescriptibles du lecteur évoqué par Daniel Pennac dans comme un roman a été pour moi une vraie révélation, justement, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas lire jusqu'à la fin.
Mais vous y arrivez pas encore tout à fait.
J'ai du mal à abandonner un livre en cours de route. Mais c'est une problématique qu'a bien exploré Pierre Bayard hein, dans Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, qui montre justement qu'il y a quantité de manières en fait de lire les livres et que il n'y a pas d'un côté les livres qu'on a lus et de l'autre ceux que l'on n'a pas lus. En fait, il y a un éventail de possibilités extrêmement variées entre ces deux extrêmes selon qu'on a lu quelques fragments du livre, quelques pages, le livre en entier, mais que finalement on a totalement oublié ce livre. Donc est-ce que c'est encore un livre qu'on a lu si on ne s'en souvient plus ? Enfin, y a des propositions qui sont très stimulantes sur la façon dont on lit les livres. Et effectivement, quand on parle entre lecteurs du même livre, on se rend compte que chacun y a lu des choses différentes et on retient des choses différentes.
Mais c'était peut-être pas comme ça, Filippo Ronconi, au début du premier millénaire, quand on lisait un livre, qu'est-ce qu'on faisait ? On n'avait pas cette liberté par rapport au texte.
Bien entendu, et là on revient aussi à la question de la forme, du support, du format. Parce que justement, comme Christine le disait mais de façon très appropriée, il y a une lecture d'un certain point de vue linéaire dans les rouleaux. C'est-à-dire que bien entendu, le rouleau implique de dérouler avec une main et de enrouler avec l'autre main.
Ce qui fait qu'on a les mains prises aussi, on peut pas prendre de notes par exemple.
Voilà, tout d'abord on a les deux mains prises et même si on le met sur une table par exemple, chose qu'il ne faisait pas beaucoup à ce qu'il semble, hein, à partir de l'iconographie du moins, il faut considérer que généralement le rouleau en papyrus étant élastique avait tendance à se enrouler à nouveau. Donc d'une quelque manière, il fallait être présent avec les deux mains pour lire. Mais c'est surtout le fait que justement, même si déjà Pline l'Ancien nous dit, bon, et aussi Galien nous laisse entendre qu'il existait des marques-colonnes, donc apparemment des petites épingles, que donc on pouvait utiliser, mais en fait, évidemment, c'était pas très diffusé à ce qu'on voit. Donc, probablement, la lecture était effectivement généralement une lecture linéaire, plus ou moins début à la fin. Entre autres, c'est aussi intéressant de remarquer qu'à la fin de la lecture, le rouleau était enroulé au contraire. Donc, les bons lecteurs étaient celui qui, avant de le remettre dans les rayons de sa bibliothèque,
il fallait rembobiner un petit
voilà,
peu.
C'est
une analogie avec les cassettes est tout à fait
précisément,
possible.
Précisément. Donc, on voit aussi, d'un certain point de vue, la complexité de l'acte de lecture dans son ensemble. En revanche, lorsqu'on passe évidemment au codex, comme Christine le disait très bien, il y a la possibilité d'ouvrir les livres, là où on veut, tout de suite. Et c'est bien plus simple de marquer la page. Et donc évidemment, une typologie de lecture différente progressivement s'affirme, qui est celle justement d'une lecture sélective. Et cela se lie d'un côté à la figure du lecteur, mais d'autre part aussi à la figure du copiste, parce que les compétences du copiste se transforment. Le copiste du rouleau, évidemment, ne doit faire rien d'autre que de gérer la surface ininterrompue de la bande du rouleau. Le copiste, en revanche, du codex est, si l'on veut, lié à l'espace très limité de la page, mais en même temps, la structure du codex est modulaire, c'est-à-dire il est composé de cahiers, et il peut en rajouter autant qu'il veut. Et donc ça signifie que le rapport à l'ouvrage et aux ouvrages que l'on doit reproduire et transmettre, et ensuite lire, se transforme, et a lieu ce que j'appelle un peu la diluition de l'auctorialité, c'est-à-dire cette figure même de l'auteur qui est si puissante dans l'Antiquité, au Moyen-Âge comme diluée, parce que justement aussi, bon, il y a plusieurs raisons naturellement, mais il y a aussi cet élément de la coprésence de plusieurs ouvrages par plusieurs auteurs dans un même support. Et cela, on le voit très rarement dans les rouleaux de l'Antiquité. Donc vraiment, la transformation profonde de l'objet livre semble contribuer à comporter une transformation sociale bien plus vaste de la figure, non seulement du lecteur, mais aussi de l'auteur.
À ce sujet, on pourrait aussi parler des droits d'auteur qui interviennent assez tard dans l'histoire du livre. Mais revenons un peu, Filippo Ronconi, au lecteur. Qui lisait des livres du 1er au 3e siècle, et ensuite, qui va lire des livres? Est-ce qu'on peut faire un petit peu cette histoire du lectorat?
Oui, toujours, il faut tout d'abord comprendre ce que lire veut dire. C'est-à-dire, moi, je préfère parler d'utilisateur de livres plutôt que de lecteur tout court. Parce que, justement, aujourd'hui, je pense que nous pouvons un peu le comprendre en réfléchissant aux audiolivres d'aujourd'hui, hein, mais la dimension de ce que j'appelle les audiolivres du passé est vraiment quelque chose de fondamental dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. C'est-à-dire ce que je disais de la lecture sonore qui implique aussi une socialité, une sociabilité de l'acte de lecture. Si bien que les utilisateurs du livre, et je pense par exemple au Moyen-Âge, à la lecture des Vies des Saints ou des grands textes liturgiques, au fond, il y a encore aujourd'hui à l'Église un lecteur et des auditeurs. De cette manière, un texte pouvait être reçu et d'une certaine manière connu aussi par des analphabètes. Donc eux aussi, ce sont des utilisateurs de l'objet livre, même si des utilisateurs indirects. Voilà. Donc, mais si la question c'est vraiment qui lisait physiquement et matériellement, alors bien évidemment, il y avait toute une dimension d'érudition, les érudits, hein, les grands aristocrates, en faisant quand même attention au fait que pour nous, la culture est synonyme d'alphabétisme. Donc pour nous, quelqu'un qui est analphabète ne peut pas être cultivé. Alors qu'il faut bien souligner que par exemple au Moyen-Âge, comme lire, c'est difficile, et quand même apprendre à lire, c'est fatigant, et il n'y avait pas, ou seulement à partir d'un certain point, les lunettes, l'illumination n'était souvent pas adéquate. Donc évidemment, il y avait quelqu'un qui lisait. Mm-hmm. Et donc très souvent, les grands aristocrates, parfois, ne savaient même pas lire, et savaient à peine signer. Mais Charlemagne, par exemple, était quelqu'un d'une certaine culture, mais qui probablement avait un rapport très flou à l'écriture.
Christine Bénévent, ça va changer avec la période qui vous intéresse le plus, qui est la période de la naissance de l'imprimerie.
À la fois oui et non, me semble-t-il, parce qu'effectivement, tous les contemporains de l'invention de l'imprimerie disent que le livre se démocratise, enfin que même les plus indigents vont pouvoir s'acheter des livres. Mais finalement, au niveau de l'alphabétisation, enfin, on est toujours dans une société quand même largement analphabète, où effectivement, il faut des médiateurs, il faut des passeurs, hein, pour qu'un certain nombre de personnes aient accès à l'écrit et pas seulement au livre, hein. Je pense que ça c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit, c'est que l'invention de l'imprimerie, ça n'est pas seulement des livres qui vont être imprimés, ce sont aussi beaucoup d'affiches, de placards, d'éphémères, et ce sont des choses qui ont beaucoup disparu et dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui, mais qui devaient irriguer la société, l'écrit était partout.
Donc l'écrit descend entre guillemets un peu partout, y compris jusque dans la rue.
Oui.
Et ça, c'est important aussi de raconter cette immense démocratisation du livre que permet l'imprimerie.
Oui, Tout à fait, mais en même temps, par rapport à l'exemple, aux exemples que donnait Philippot, le roi François Ier est connu pour avoir des lecteurs qui lui lisaient à voix haute, notamment au moment des repas, des textes. Comme beaucoup des princes de l'époque, il y avait une course au prestige à travers la constitution de magnifiques bibliothèques, une chasse aux manuscrits, et en particulier aux manuscrits grecs, alors que François Ier ne lisait ni le grec ni le latin. Donc il y a une différence entre les possesseurs, les lecteurs, les utilisateurs. Enfin, il y a des subtilités à respecter quand on évoque ces réalités.
Vous parlez, Philippe Ronconi, des textes frivole. Alors, on revient à notre période du 1er au 3e siècle. Qui est-ce qui lit les textes frivoles? Est-ce que c'est est-ce qu'on peut qualifier ça de populaire? J'imagine que non, quand même, ça doit être réservé à une certaine élite. Est-ce qu'on les lit à ces personnes-là ou est-ce qu'ils les lisent eux-mêmes? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs ces textes frivoles?
Voilà, ça c'est très intéressant parce que cela se lie à une transformation. Et je suis d'accord, il faut être très prudent lorsqu'on parle de révolution dans les cadres du livre parce que justement il s'agit d'une histoire longue et longue.
Donc c'est une évolution.
Une évolution. Et on est justement à une époque où il y a ce que Santo Mazzarino, un grand savant italien, appelait la démocratisation de la culture. C'est-à-dire, mais là aussi il faut utiliser les mots, il faut peser les mots. Mais en tout cas, bien évidemment, c'est une période où, grâce à la globalisation du marché méditerranéen, grâce à l'unification de l'Empire romain, il y a, disons, une transformation sociale progressive. Et donc, il y a de nouvelles classes liées au marché, liées au commerce, etc., qui s'affirment. S'affirment et progressivement s'alphabétisent. S'alphabétisent aussi parce que l'Empire romain a une structure administrative, bureaucratique, très bien organisée. Cela s'était déjà passé à l'époque des royaumes hellénistiques, où justement, et ça, c'est un élément qu'il faut toujours prendre en considération. La structuration de l'administration fait en sorte que l'individu doive s'alphabétiser, parce que l'analphabétisme devient un handicap social vis-à-vis du pouvoir. Et donc, la diffusion de l'alphabétisme, la diffusion d'un bien-être et d'un niveau économique plus élevé dans des classes sociales, des blocs sociaux qui ne pouvaient pas auparavant s'acheter des livres, leur permet d'un coup d'accéder au marché du livre. Et donc, ils commencent aussi exiger quelque chose de nouveau. D'où la naissance de toute une énorme quantité de textes frivoles, justement, qui sont des textes d'auto-instruction, des textes parfois même pornographiques, des romans, des textes qui ne correspondent pas aux lectures de la grande aristocratie traditionnelle, qui étaient les grands classiques, l'épique, etc. Et donc, là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est aussi que cela coïncide avec la diffusion du Codex, qui est à son tour un support.
Donc on est à quelle
maniable,
époque exactement?
Justement
là
entre les premiers et les troisièmes, premier, deuxième, troisième plus ou moins. Mais c'est intéressant de remarquer que quand même ces textes frivoles étaient en fait des textes transversaux. On sait que l'empereur Tibère, dans ses orgies à Capri, selon Suétone du moins, il lisait des poésies pornographiques que l'on retrouve dans les papyrus d'Égypte, dans des tout petits livres écrits, dans des écritures très modestes. Donc on voit vraiment cette perméabilité de la société du point de vue de lecture.
Mais combien pouvait coûter, par exemple, pour se rendre compte un peu de la diffusion de ces livres, les premiers codex frivoles qu'est-ce qu'il fallait faire comme métier pour pouvoir se l'offrir?
Bien sûr, c'est une question très intéressante que l'on me pose souvent, à laquelle est un peu complexe de répondre parce que justement on doit se rapporter à une société qui avait des paramètres économiques et financiers tout à fait différents, mais suivant les indications qu'on a, il semblerait que quand même pour pouvoir acheter, on parle d'acheter et je vais tout de suite dire pourquoi je souligne cet aspect, pour pouvoir acheter un petit codex du début, modeste, il fallait quand même quelques mois le salaire de quelques mois de travail d'un ouvrier. Donc c'était quand même un objet qui n'était pas tout à fait bon marché. Mais je souligne cet aspect acheté, parce que d'autre part, une caractéristique importante du codex, c'est que très souvent, on voit dans les fragments qui nous sont parvenus des codices les plus anciens, il y a toute une dimension codices, domestique.
C'est le pluriel de codex.
Voilà, codex, oui, pardon. Voilà.
Je ne saurais pas.
Et il y a une production domestique. Donc, on pouvait, même si on était moyennement alphabétisé, se copier un ouvrage. Donc, on pouvait l'emprunter, la copier. Et voilà, donc cela change un peu aussi cette dimension économique. Voilà, il ne faut pas penser nécessairement au livre comme à quelque chose de très très cher, nécessairement.
Christine Bénévent, évidemment, l'invention de l'imprimerie, c'est une question économique. C'est une question de baisse des coûts du livre et du coup de diffusion plus large.
Oui, il y a un enjeu économique très évident et qui a été immédiatement perçu par les contemporains. Je l'évoquais tout à l'heure dans les textes qui sont consacrés aux livres imprimés. On insiste beaucoup sur la baisse de coûts qu'entraîne l'imprimerie. Mais par rapport à ce que disait Philippot, le manuscrit perdure quand même aussi. Et on a, je pense à l'exemple d'Erasme, jeune étudiant, qui continue, alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent, et qui donc copie de façon manuscrite les textes classiques dont il a besoin pour ses études. Donc il y a aussi ce phénomène. Alors à côté, il y a les manuscrits d'apparat, mais là je parle vraiment des manuscrits de travail que se constituent les étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer des livres imprimés, même si effectivement le coût en a beaucoup baissé.
À quel moment? Parce que l'invention de l'imprimerie, c'est 1448, alors, bon, c'est la date qu'on cite habituellement.
Oui, alors 1454, en tout cas, disons que c'est la date dont on est sûr pour la célèbre Bible de Gutenberg, sachant que ça n'est certainement pas la première production de l'atelier de Gutenberg, parce que c'est une telle perfection technique, il y a sûrement eu beaucoup d'essais antérieurs, qu'on ne connaît que par des fragments, pas forcément datés, donc effectivement, on est dans ces années 1450.
Et ensuite, alors, à quelle vitesse est-ce que ça se développe et à partir de quand on peut dire que vraiment l'imprimé se diffuse largement, Christine Bénévent?
Alors, pour donner une idée du saut quantitatif qui s'opère avec l'invention de l'imprimerie, l'idée, c'est que un compositeur, donc ceux qui sont chargés de composer le texte qui va être imprimé, mettra peut-être autant de temps qu'un copiste à composer un texte. Simplement, une fois que le texte est composé, on va pouvoir en tirer des centaines, des milliers d'exemplaires, alors que le copiste n'aura au final qu'un exemplaire à disposition. Et donc, entre 1450 et 1500, on est à peu près sur 30 000, un peu moins de 30 000 éditions actuellement identifiées. Et donc, si on part d'un tirage moyen de 500 exemplaires, on voit quand même que ce sont plusieurs de millions d'exemplaires qui ont été mis en circulation dans l'espace d'une cinquantaine d'années. Ce qu'observent aujourd'hui les historiens, c'est que finalement, le marché n'était pas forcément prêt pour un tel afflux. Les crises de surproduction sont arrivées assez, assez rapidement. En
fait. Donc ça se passe d'abord dans la vallée du Rhin, c'est ça? Parce que Gutenberg étant lui-même originaire de cette région, de Mayence.
De Mayence, oui.
Et ensuite, c'est quoi? C'est Paris, c'est Venise?
Alors en fait, ce sont vraiment les personnes qui se sont formées dans l'entourage de Gutenberg qui vont essaimer en Europe. Et effectivement, c'est d'abord en Italie à Subiaco dans un monastère. Là, ce qui montre bien que les autorités ecclésiastiques s'intéressaient beaucoup à cette.
Et puis il y a la tradition des copistes pendant le Moyen Âge.
Oui, ça a pu jouer, mais on pense vraiment que c'est le rôle d'un cardinal qui a conduit ces premiers imprimés allemand à venir s'installer en Italie, donc d'abord à Subiaco, puis donc à Rome, à Venise. Venise qui va devenir le principal centre de production européen. L'imprimerie arrive en 1470 à Paris, là aussi à l'initiative de deux sociétaires du collège de Sorbonne, donc qui est vraiment un collège de théologiens. Donc on est là aussi vraiment sur l'intérêt que l'Église a apporté à cette invention nouvelle.
Nos voyageurs voient dans cette île un petit vieillard bossu et monstrueux nommé Widir. Dans une gueule fendue jusqu'aux oreilles, on compte sept langues, et chaque langue est fendue en sept parties. Tous les sept parlent ensemble. Sur la tête et le reste du corps, il porte autant d'oreilles qu'Argus, Dieu. Autour de lui, je vis nombre innombrable d'hommes et de femmes écoutants et attentifs. L'un d'eux, tenant une map monde, la leur enseignait par petits aphorismes. Tous y devenaient clairs et savants en peu d'heures et parlaient de choses qu'il faudrait une vie entière pour connaître. Non pas entièrement, mais en minime partie. Des pyramides, du Nil, de Babylone, des troglodytes, des pygmées, des cannibales, de tous les diables, et le tout par oui dire. Là, je vis Hérodote, Pline, Solon, Philostrate, Méla, Strabon et tant d'autres antiques. Albert le Grand, Paul Jove, Jacques Cartier, Marco Polo et je ne sais combien d'autres modernes historiens. Écrivant de belles besognes et le tout par oui dire.
L'allégorie du oui-dire dans le cinquième livre de Pantagruel, qui est une métaphore au fond du livre, en écho à la conversation que nous avons en ce moment avec vous, Christine Bénévent et Filippo Ronconi. Christine Bénévent, vous racontez aussi la transmission des textes à la Renaissance. Est-ce que la Renaissance est née du livre? Est-ce que l'humanisme presque est né du livre?
Alors c'est ce que laissait entendre en tout cas la quatrième de couverture de Quattrocento, le livre de Greenblatt qui a eu un certain retentissement au cours de ces dernières années et qui a fait l'objet d'une réception assez contradictoire dans les milieux universitaires. Alors ce qui est sûr, c'est que effectivement les humanistes se sont lancés dans une chasse aux manuscrits que l'imprimerie a peut-être permis de valoriser finalement en rendant possible tout ce travail philologique. Alors le travail philologique existe avant. Enfin, je ne veux surtout pas dire que la philologie naît avec la Renaissance. Oui, voilà l'étude des textes. Mais disons que l'imprimerie déplace un petit peu les enjeux de cette entreprise philologique, puisque il s'agit de fournir le texte le plus correct possible, qui va faire l'objet effectivement d'une diffusion massive. Et donc on associe souvent la démarche humaniste de recherche des manuscrits et l'invention de l'imprimerie, mais en fait leurs rapports sont beaucoup plus complexes et dans le temps et dans la réalité de leur interaction que ce qu'a pu dire Michelet par exemple au 19e siècle. Oui, aujourd'hui on est sur des
même si c'est un élément probablement important quand même.
Oui, alors indéniablement important.
Filippo Ronconi.
Et justement pour souligner que le rapport des renaissances, parce que justement notre histoire occidentale, ou du moins l'historiographie, disons les historiens qui s'occupent de l'histoire de l'Occident aiment bien parler de plusieurs renaissances, plusieurs humanismes, et déjà à Byzance on compte aussi ou 7 renaissances selon les différents chercheurs, mais le grand moment de renaissance entre guillemets dans les mondes de l'Empire romain d'Orient du Moyen-Âge, donc Byzance, c'est-à-dire les 9e, 10e siècles, a été caractérisé pas au hasard par des transformations dans l'objet livre, c'est-à-dire la naissance de la minuscule, par exemple, la minuscule grecque qui n'existait pas auparavant, est née probablement, moi j'en suis convaincu, pas au hasard, au même moment, plus ou moins, où il y a eu cette transformation remarquable dans la société et dans la culture, et donc il y a eu un nouveau intérêt pour les livres anciens, une récupération d'anciennes bibliothèques, la nouvelle transcription des livres, etc. Donc, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu dis il y a un rapport avec les livres, mais pas nécessairement avec l'imprimerie, c'est-à-dire la dimension de la Renaissance comme concept abstrait, si l'on peut dire, est quand même très souvent lié dans l'histoire occidentale à des transformations du livre en tant que tel, pas nécessairement à la dimension de l'imprimerie précisément.
Mais Christine Bénévent le disait tout à l'heure, le livre est lié au pouvoir de bien des manières. Pour vous, quelles sont les grandes époques où le livre a été changé, le livre dans sa matérialité a été changé par le pouvoir, Filippo Ronconi?
Justement, je pense qu'il Il faut être prudent de ce point de vue, c'est-à-dire le pouvoir a toujours essayé de s'approprier le livre en tant que symbole du pouvoir. Hein, on le voit très bien dans l'iconographie, les empereurs aiment bien se faire représenter.
Les présidents aussi aiment bien se faire prendre en photo avec des Pléiades, par exemple.
Voilà, précisément, encore aujourd'hui. Hein. Non, bien sûr. Mais ce que je vais dire, c'est que, en revanche, je trouve que lorsqu'on essaie de faire une histoire du livre, il faut, si l'on veut, éviter ce type de simplification, au contraire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des grands événements imposés par les pouvoirs qui ont effectivement changé l'histoire du livre. Alors, et là, je donne deux exemples dans mon ouvrage, c'est-à-dire les Bibles de Constantin le Grand et les Codex de Justinien.
Alors, racontez-nous les Bibles de Constantin.
Ben justement, Constantin le Grand, l'empereur romain qui a fondé Constantinople, aujourd'hui Istanbul, donc la capitale, disons, de l'Empire romain d'Orient, et surtout celui qui s'est converti au christianisme de façon, si l'on veut, presque définitive, voilà, lui et ses successeurs. Donc, c'est quand même une figure de rupture remarquable à plusieurs niveaux. Eh bien, c'est très intéressant de remarquer que lui, il commande, par une lettre qu'on conserve, qu'on a, pas en original bien évidemment, la réalisation de 50 copies de la Bible. Mm-hmm. Et ces 50 copies de la Bible, alors il est probable qu'on en conserve deux, ou une peut-être, bon, quand même, à la Cité du Vatican, l'une et l'autre au Mont Sinaï. Ce sont des livres extraordinaires, déjà très évolués, des codices, voilà. Alors, pendant quelques temps, on a voulu attribuer à cette initiative impériale un rôle clé dans l'affirmation du codex. Alors que justement, les études des dernières décennies ont démontré en revanche que cela arrive à la fin d'un processus, non pas
au début. Ça vient valider au fond l'avènement du codex.
C'est une appropriation. Voilà, l'un des exemples où le pouvoir...
Donc ça passe par le pouvoir, ça passe aussi par la religion, non?
Voilà, précisément, dans ces cas-là. Bon, mais à cette époque, dans ces contextes, c'est un peu difficile de distinguer les pouvoirs de la religion. Voilà, l'empereur, à partir de Constantin le Grand, préside les conciles écuméniques. Donc voilà, il y a tout un enjeu de liaison. Mais justement, il y a cet aspect qui est un aspect, donc, je trouve très important. Très souvent, le pouvoir s'approprie une innovation lorsqu'elle n'est plus une innovation.
Christine Bénévent.
Oui, je pense qu'on peut même aller plus loin et dire que le livre peut être aussi la source d'un contre-pouvoir et que les tentatives du pouvoir pour contrôler le monde du livre, pour établir la censure, montrent bien la conscience qu'a le pouvoir justement du potentiel. Peut-être pas anarchique, mais enfin de désordre que peut avoir le livre ou le monde du livre.
C'est la question peut-être des autodafés aussi, ou de la censure.
Oui, alors enfin, on peut penser effectivement à ces pouvoirs qui tentent de détruire le livre pour éteindre toute protestation. Ce à quoi je pensais aussi, c'est au XVIe siècle, au fait que le milieu du livre a été un milieu très sensible aux idées réformées, à ce qui allait devenir le protestantisme. Alors que, voilà, en tout cas, pendant une longue période encore en France, on veut s'ancrer du côté catholique. Et donc, il y a un pouvoir émancipateur aussi du livre à l'égard du pouvoir. Donc les rapports entre l'un et l'autre sont tissés de rapprochements, de contradictions et d'oppositions qui sont quand même assez complexes à démêler.
Est-ce qu'on peut retrouver dans les bibliothèques, dans la création des bibliothèques, justement ce rapport du livre avec le pouvoir? Parce que c'est souvent le pouvoir qui choisit ce qu'on met dans les bibliothèques.
Oui, alors là, c'est vraiment un enjeu très intéressant à observer, hein, c'est-à-dire la façon dont la bibliothèque a pu devenir un outil de prestige et de pouvoir pour les puissants. Et en particulier, là encore, je reviens à François Ier, au livre grec et aux humanistes. Hein, c'est vrai que la concurrence que se faisaient les souverains à l'époque a induit une position vraiment de dépendance des humanistes à l'égard du pouvoir, puisque pour pouvoir mener leurs travaux, il fallait qu'ils montrent patte blanche pour pouvoir accéder aux richesses qui étaient détenues dans les bibliothèques.
Ce qui est moins le cas aujourd'hui, puisque les livres étant pour beaucoup numérisés, on n'a plus besoin de passer les portes des bibliothèques, contrôlées ou non, par le pouvoir.
Oui, alors après, on pourrait s'interroger sur le pouvoir de Google dans le choix des livres numérisés et de l'accès, qui pour l'instant est très libre et gratuit, mais voilà, on ne sait pas... Si demain Google décide de rendre payant tous ces accès-là, cette liberté dont nous disposons aujourd'hui
risque de s'évaporer. Filippo Ronconi.
Oui, bien sûr, c'est un élément central, celui du rapport au livre et surtout à la constitution des bibliothèques. Je pense à deux moments clés de l'histoire méditerranéenne, naturellement la bibliothèque d'Alexandrie et les Ptolémées, et d'autre part Auguste et les principats romains. Deux moments pas au hasard, culturellement extrêmement riches, extrêmement articulés. Ou alors dans les cas de Ptolémée, évidemment, là c'était très explicite, c'était une politique de puissance internationale en contraste avec justement les royaumes de Pergame et une volonté de s'affirmer sur la scène méditerranéenne, disons, de ce point de vue. Donc l'idée de réunir l'ensemble du savoir universel, hein, qui c'est quand même une vision, naturellement, qui a été beaucoup mythisée par les sources, par la suite, jusqu'à très récemment, mais qui quand même, bon, cette bibliothèque, je pense aux recherches de Christian Jacob, notamment, voilà, évidemment, il s'agissait d'une entreprise extraordinaire. Et d'autre part, justement, l'époque d'Auguste, où il y a un rapport très ambivalent, c'est-à-dire il y a cette constitution des grandes bibliothèques, entre autres toujours structurées en deux ailes, en deux parties, une grecque et une romaine, à souligner la vocation, si l'on veut, universelle, méditerranéenne, de l'empire, du principat de l'empire qui se prépare avec Auguste à la fin du 1er siècle avant. Et en même temps, il y a aussi le choix de ce qu'il faut inclure. Et l'exemple de, justement, d'Ovide est vraiment remarquable. Hein. L'un des plus grands poètes de l'époque qui rentre en contraste avec la famille d'Auguste d'une manière qui n'est pas très claire, si c'est plutôt un enjeu politique ou un scandale sexuel. Mais en tout cas, il est justement envoyé en Roumanie, à Tomi, et ces ouvrages sont exclus des bibliothèques publiques romaines. Et donc, nous les connaissons quand même, parce qu'elles avaient eu une énorme circulation. Donc, et cela ouvre aussi une autre question. Quel est effectivement le pouvoir du pouvoir d'empêcher la transmission des ouvrages? C'est dans l'Antiquité, ça n'a pas marché, en fait.
C'est là où, probablement, que l'imprimerie crée une résilience du texte qui est énorme, parce qu'il y a forcément un endroit où on va retrouver un jour ou l'autre un livre perdu. Christine Bénévent.
Mais en tout cas, on espère que cette résilience a été rendue possible par l'imprimerie, mais le taux de perte de livres, même imprimés, est sans doute considérable.
Et on a Vous avez une idée de ce taux-là ou...
Alors, il y a des chiffres qui circulent. Disons que en termes de nombre d'éditions, on en a sans doute perdu peut-être 1%. Enfin, c'est voilà, il faut qu'il y ait un exemplaire d'une édition pour attester de l'existence de cette édition.
Mais évidemment, quand ça a disparu corps et bien, on ne peut pas savoir qu'on l'a perdu.
Voilà, c'est ça. La
merci,
difficulté.
Merci beaucoup Christine Bénévent, merci beaucoup Filippo Ronconi. Je rappelle vos ouvrages qui ont donné l'occasion de cette émission. Aux racines du livre « Métamorphose d'un objet de l'Antiquité au Moyen-Âge », c'est de vous, Filippo Ronconi. Et puis « Miroir d'encre », c'est votre ouvrage, Christine Bénévent. Ces deux livres paraissent simultanément ou presque aux éditions EHESS. C'était Sans oser le demander, une émission qui est à retrouver, mais vous le savez, en podcast et sur franceculture.fr en streaming